Le journal Pierre Veil, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. La finale anglaise de la Ligue des champions de football, Liverpool-Tottenham à Madrid ce soir. Dans le quartier de Tottenham à Londres, les supporters rêvent d'une apothéose européenne. Roland Garros, Gaël Monfils en huitième de finale, il a dominé Antoine Wang. La numéro 1 mondiale, Naomi Osaka éliminée, Novak Djokovic qualifié pour la suite. Les gilets jaunes, faible mobilisation, 9500 manifestants dans toute la France. Selon le ministère de l'Intérieur, nous irons à Toulouse. La hausse des tarifs de l'électricité, plus 6% à partir d'aujourd'hui, va lourdement pénaliser les plus précaires, constat du directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité. Nous l'écouterons. La fusillade aux États-Unis à Virginia Beach, 12 morts, question sur les mobiles du tireur. L'Union européenne réclame au Premier ministre tchèque le remboursement de 17 millions d'euros de subventions. Selon Bruxelles, il est en situation de conflit d'intérêts à la tête d'une entreprise géante d'agroalimentaire. Le rôle de l'intelligence artificielle pour soigner le cancer chez les personnes âgées, un des thèmes au congrès de cancérologie de Chicago. Et puis, actualité et poésie au programme de la vie connectée de Christine Siméon, comme chaque samedi dans ce journal.
France Inter.
Le football, Liverpool-Tottenham, ce soir 21h, la finale de la Ligue des Champions à Madrid, le couronnement du football anglais. Liverpool fait figure de favori, quintuple champion d'Europe, battu en finale l'an dernier par le Real Madrid. Pour Tottenham, c'est la première finale. C'est un match fantastique à jouer et à savourer, même si la meilleure manière de l'apprécier est de gagner. Propos du gardien français Hugo Lloris, capitaine de Tottenham, les Spurs. À Tottenham, ce quartier du nord de Londres, c'est, vous l'imaginez, l'effervescence. Reportage sur place, Haute-Soufi.
Fanions, écharpes et drapeaux aux couleurs des Spurs sont dans toutes les vitrines des magasins de Tottenham, des agences immobilières aux coiffeurs. C'est tout le quartier qui veut croire à la victoire ce soir.
On est une bonne équipe, on est à deux doigts d'y arriver. Nous avons une grande histoire, nous sommes un grand club, nous l'avons toujours été. Tout vient à point, à qui s'est attendre, on va gagner.
Le club londonien n'avait jamais atteint la finale de la Ligue des Champions, donc pour les supporters, c'est déjà une victoire en soi.
C'était inespéré, je ne pensais pas qu'on allait battre Manchester City. On a battu l'Ajax dans les dernières minutes, c'était fantastique, la meilleure sensation du monde.
Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Au début de la saison, tous nos joueurs étaient épuisés. On était mal partis, mais notre manager nous a fait vivre un rêve et nous a portés jusqu'à la finale. J'essaye de ne pas trop m'emballer, mais c'est génial.
Le stade, qui vient de rouvrir après 2 ans de travaux, accueillera 62 000 spectateurs qui pourront vivre le match de Madrid sur écran géant. Autant de fans qui espèrent assister à la parade de l'équipe demain avec le trophée dans les mains. À Londres, Haute-Soufi, France Inter.
L'Espagne du football en deuil, l'ancien international José Antonio Reyes, qui a évolué entre autres à Arsenal et au Real Madrid, est mort dans un accident de voiture sur une autoroute près de Séville. Il avait 35 ans. Le tennis, Roland Garros, Fabrice Abgral est avec nous en direct dans les tribunes. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Gaël Monfils, Fabrice, eh bien Gaël Monfils, il l'a emporté en 2 heures sur Antoine Wang pour une place en 8e de finale.
Eh oui, Gaël Monfils qualifié donc pour les 8e de finale. Le Parisien est sorti vainqueur de ce duel franco-français qui l'opposait à ce Toulonnais Antoine Wang en 3-7, 6-3, 6-2, 6-3. Monfils n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi. Monfils s'est imposé logiquement sans jamais vraiment trembler. Il a bien maîtrisé la situation et parfaitement contrôlé. Antoine Wang, un attaquant très agressif, audacieux, conquérant, sans complexe aujourd'hui. Mais la marche était beaucoup trop haute pour le Toulonnais. Antoine Wang produit un tennis à risque et comme souvent dans ce cas-là, eh bien, il y a du déchet. Il a commis énormément de fautes directes, 54 fautes directes contre 20 à Gaël Monfils. Gaël Monfils a pris le soin toutefois de ne pas se laisser piéger par un joueur qu'il ne connaissait pas après une période d'observation en début de match. Et bien Gaël Monfils a accéléré pour ensuite ne plus jamais être vraiment inquiété par ce Antoine Wang, 146e mondial. La révélation du tournoi encore perfectible. Un garçon prometteur au joli potentiel. Gaël Monfils se hisse pour la 8e fois de sa carrière en 8e de finale. Et à ce stade de la compétition, il affrontera le finaliste de l'an passé, l'Autrichien Dominic Thiem, le numéro 4 mondial. Un joueur que Monfils n'a jamais battu en 4 confrontations, dont 2 sur terre battue. Mais ce sera toutefois une première en Grand Chelem.
Fabrice, les autres résultats de la journée, la numéro 1 mondiale, Naomi Osaka, éliminée.
Oui, Naomi Osaka, vainqueur des deux derniers tournois du Grand Chelem. Elle s'est fait sortir par la Tchèque Katerina Siniaková en 2-7, 6-4, 6-2. Sinon, chez les hommes, pas de surprise, ça passe pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, vainqueur de l'Italien Salvatore Caruso en 3-7. Alexander Zverev a dû batailler pour se sortir de son match contre le Serbe Dusan Lajovic. Alexander Zverev, le numéro 5 mondial, s'est imposé en 5-7 et il affrontera au prochain tour l'Italien Fabio Fognini, vainqueur du Masters 1000 de Monte Carlo. Lui, il a dominé Roberto Bautista Agut en 4-7.
Fabrice Abgral en direct à Roland-Garros, un mot de rugby. Lyon, vainqueur de Montpellier 21-16 en demi-finale du top 14 pour la deuxième année de suite. Les tarifs de l'électricité ont augmenté ce samedi de près de 6% en moyenne. Coup de colère de Florent Guéguen, le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité. Cette hausse va entraîner une baisse du pouvoir d'achat des familles les plus précaires. Il explique pourquoi à nos confrères de France Info.
Le problème, il est à la fois évidemment l'augmentation tarifaire, mais il est aussi autour de l'état des logements, puisque la France compte près de 7,5 millions de logements qui sont des passoires énergétiques. Et ce sont souvent d'ailleurs des logements qui sont occupés par des ménages pauvres. Et donc finalement, ce sont ces ménages-là qui ont souvent des dépenses d'électricité très très importantes parce que les logements sont mal isolés. Et donc un certain nombre de ménages, notamment l'hiver, finalement décident de ne plus se chauffer parce qu'ils considèrent qu'ils ne seront pas en capacité de payer leur facture. Évidemment, c'est pas acceptable dans la France de 2019 que des familles fassent le choix d'avoir froid dans leur logement.
David Béliard, le chef de file du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, élu aujourd'hui tête de liste des écologistes pour mener la bataille des municipales à Paris en mars 2020, porté par le score des écologistes dans la capitale aux européennes, 19,9%. David Béliard, qui a 41 ans, disait cette semaine qu'il voulait prendre la tête d'une coalition écologiste et de gauche aux municipales. Il s'est récemment montré très hostile à la mise en place d'une police municipale à Paris annoncée par la maire. Anne Hidalgo. Les Gilets jaunes, 29e samedi de manifestation. Selon le ministère de l'Intérieur, 9500 manifestants dans tout le pays, dont 1500 à Paris, soit beaucoup moins que la semaine dernière. Clairement, le mouvement marque le pas. Défilé dans la capitale entre la place d'Enfer-Rochereau et la place de la Nation, les slogans « On ne lâche rien »,« Justice sociale »,« Justice fiscale ». Des Gilets jaunes se sont aussi rassemblés à Toulouse, sur place, Alain Gastal.
Quelques centaines de manifestants, tout au plus un millier, au plus fort de l'après-midi, les Gilets jaunes étaient beaucoup moins nombreux, ce qui ne les a pas empêchés, malgré un soleil déjà accablant, de parcourir des heures durant les boulevards et les rues du centre-ville. On est donc loin des mobilisations de l'hiver ou encore du début du printemps. Du coup, les slogans sont moins agressifs et l'ambiance plus détendue. Mais Bernard, gilet jaune et cégétiste, ne veut pas croire pour autant que l'élection européenne va mettre un terme au mouvement.
Il y a eu les élections, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a 1/10 qui ont voté pour Macron, si on regarde les inscrits, puisqu'il y a 50% d'abstention. Et même s'il y a momentanément moins de monde, les problèmes restants, ça continuera. On a vu que le gazole a augmenté, maintenant c'est l'électricité, tous les problèmes restent.
Ailleurs, autour de Toulouse, quelques mobilisations également, mais beaucoup moins nombreuses encore. Cela dit, personne ne parle de supprimer ou même de suspendre le sempiternel rendez-vous des samedis après-midi. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
À la fin de ce journal, bien sûr, les prévisions météo de Jean-Michel Golinski. Aujourd'hui, en tout cas, un peu partout en France, la chaleur, des températures d'été entre 25 et 31 degrés. On avait perdu l'habitude. Illustration à Paris, dans le parc des Buttes-Chaumont, où s'est rendue Justine Leclerc.
Qui dit soleil dit pique-nique pour Ninon, sa sœur et une amie.
On s'est fait une bonne salade bien fraîche, on a acheté des petites fraises, voilà. Surtout après les semaines qui se sont écoulées, qui ont été un peu longues, là ça fait du bien, on a l'impression de revivre un peu.
Séance bronzage pour cette maman venue au parc avec ses deux petites filles pour profiter enfin de la chaleur.
Ah bah déjà naturellement ça me ressource. Mais en plus, on a envie de glace, on a envie de partir en vacances, puis on a envie de se déshabiller.
Ah ouais, carrément.
Ah oui, carrément.
C'est-à-dire, vous allez le faire?
Je l'ai fait presque. Je veux dire, d'habitude, je suis en jean, pull, basket.
Et là?
Là, j'ai les claquettes, la jupe, le débardeur et le chapeau. Donc, c'est quand même un autre attirail, quoi.
Ce soleil rend Simon, amateur de pétanque, joyeux et blagueur.
On a le soleil du sud, mais côté Paris quand même, faut pas y connaître. Bah, les gens sont un peu plus détendus, ouais. Déjà, ça se voit, les gens sont un peu plus souriants, on klaxonne moins, ça fait plaisir.
Là, quand même, c'est le bruit magique.
Gardez les boules et le chapeau pas loin. D'après Météo France, les températures cet été devraient être supérieures au normal.
Voilà, Justine Leclerc avec des Parisiens au parc des Buttes-Chaumont.
Le journal de 19h sur France Inter.
À l'étranger, aux États-Unis, dans l'État de Virginie, les autorités de la ville de Virginia Beach tentent de comprendre pourquoi un employé lourdement armé a ouvert le feu hier sur ses collègues des services municipaux, faisant 12 morts avant d'être abattu à l'issue d'une fusillade qualifiée par la police de longue et intense. À Washington, Grégory Phillips.
Toutes les victimes ont désormais un nom et un visage. Il s'agit de 11 employés municipaux et d'un artisan qui venait déposer un permis. 4 personnes sont toujours hospitalisées, 3 dans un état critique. En revanche, la police de Virginia Beach a peu d'explications sur les motivations du tueur. On sait qu'il s'appelait Dewayne Craddock, mais le shérif a dit ceci: « Je ne donnerai son nom qu'une seule fois, par respect pour les victimes et leurs familles, et je ne parlerai plus de lui que comme étant le suspect. » Le suspect donc avait 40 ans, il vivait à Virginia Beach et travaillait depuis 15 ans comme employé municipal. Et d'ailleurs, s'il a pu rentrer à l'intérieur de ce bâtiment, c'est grâce à son badge, son passe de sécurité. L'homme était équipé d'un pistolet de calibre 45, visiblement acheté légalement dans un état où les lois sur le port d'armes sont particulièrement permissives. Plusieurs heures après la fusillade, Donald Trump a réagi tout à l'heure sur Twitter avec un message lapidaire dans lequel il adresse ses condoléances aux habitants de Virginie. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
La Commission européenne à Bruxelles réclame au Premier ministre tchèque Andrej Babiš le remboursement de 17 millions d'euros de subventions européennes. Elle juge, la Commission, dans un rapport, qu'il est dans une situation de conflit d'intérêts. Monsieur Babiš est un des hommes les plus riches en République tchèque. Il tire toujours des bénéfices de sa holding géante agroalimentaire, une entreprise qui reçoit des subventions de l'Union européenne. Explication d'Alexis Rosenzweig à Prague.
Un ancien eurodéputé en bisbille avec Andrej Babiš indique que les mots employés dans ce rapport d'audit préliminaire sont inhabituellement forts et font honte non seulement au Premier ministre, mais à la République tchèque dans son ensemble. Il faut dire qu'Andrej Babiš est la deuxième fortune du pays, que son groupe Agrofert contrôle 900 sociétés, dont plusieurs organes de presse, emploie des dizaines de milliers de personnes et bénéficie de nombreuses subventions européennes. Quand une loi a finalement été expressément adoptée à Prague il y a 2 ans, pour contraindre le chef du gouvernement à se distancer de cet empire industriel, Andrej Babiš a mis en place un système de fonds fiduciaires, système qui ne résout en rien la situation, selon la Commission européenne. Pugnace, le populiste Andrej Babiš refuse que la moindre somme soit remboursée à Bruxelles. Malgré la récente victoire de son mouvement Anno aux élections européennes, sa situation devient inconfortable, notamment dans ses négociations avec le groupe libéral ALDE, dont il faisait jusqu'ici partie avec la formation d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Prague, Alexis Rosenzweig, France Inter.
L'importance de l'intelligence artificielle, c'est un des sujets du congrès de cancérologie de Chicago réuni en ce moment. Une équipe française de l'hôpital Henri Mondor de Créteil est venue présenter un outil d'aide à la décision pour les cancers des personnes âgées. Une intelligence artificielle qui va aider les médecins à décider s'il faut ou pas traiter le patient et de quelle façon les praticiens pourront savoir quels sont les résultats positifs éventuels ou les risques d'un traitement chez les plus de 70 ans, une population dont on connaît assez mal les réactions face au traitement. À Chicago, Véronique Julia.
Le problème chez les patients âgés, c'est qu'ils participent peu aux essais cliniques. On manque de données médicales les concernant et par conséquent, on appréhende assez mal comment ils peuvent supporter certains traitements. On décide donc souvent un peu à l'intuition, en fonction de certains critères physiologiques, de leur faire subir telle ou telle thérapie. L'idée de cette intelligence artificielle, c'est de disposer d'un outil plus précis et documenté pour prendre une décision. Un outil standardisé qui va prendre en compte tout un tas de paramètres, une trentaine au total. Il a été construit à partir du vécu de quelques 2000 personnes. Patients de plus de 70 ans déjà traités pour des cancers de toutes sortes. Étienne Auduro est épidémiologiste à l'origine du concept.
On va regarder tout un tas de facteurs qui définissent l'état clinique du patient. Est-ce que le patient a des déficits nutritionnels, cognitifs ? Et on va mettre tout ça dans la balance pour ensuite que notre algorithme de machine learning nous prédise la probabilité de survie. Ça permet vraiment de quantifier les choses et de se dire, pour un patient donné, qu'un traitement chimiothérapique pourra tout à fait être supporté et apporter un vrai bénéfice de survie. Et pour un autre patient, au contraire, que compte tenu de son terrain, le traitement va plutôt dégrader sa qualité de vie sans avoir un vrai bénéfice de survie derrière.
L'algorithme en question n'a pas vocation à décider seul de tel ou tel traitement. Il aidera la décision collégiale des médecins. Ce sera d'ailleurs accessible aux praticiens via une interface web. Aujourd'hui, plus du tiers des nouveaux cas de cancer surviennent chez les plus de 75 ans. Chicago, Véronique Julia, France Inter.
Et sur ce congrès de cancérologie à Chicago, dossier complet à lire sur franceinter.fr. Comme tous les samedis, la vie connectée avec Christine Siméon. Et si l'on mettait un peu de poésie au milieu des informations ce soir, c'est ce que vous avez fait cette semaine. Christine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez mêlé actualité et poésie en suivant la page Facebook appelée Le Poème d'Actu, un programme de la chaîne parlementaire diffusé sur les réseaux sociaux.
Oui, et voilà ce que cela donne à l'oreille ici avec un poème sur la Grande-Bretagne en plein Brexit.
Cependant que la nuit tombe sur les humeurs et les cerveaux, voilà qu'une peur grogne en English, qui si c'est sa niche. Voilà qu'elle sonde en nous montrant les crocs, en aboyant de toute sa glotte. Voilà qu'elle vote. Est-ce qu'on s'abrite? Est-ce qu'on divorce? Mais aujourd'hui, tout va si vite, paraît-il, que voilà l'île en plein Brexit.
À l'image, il s'agit d'une vidéo dont le texte est écrit par un poète journaliste, Thomas Delogis, et les dessins sont signés Anaïs Cora.
Alors, moi aussi, Christine, je pourrais écrire mon journal en vers, entre les interviews de Gérard Larcher et les reportages sur le Brexit. Pourquoi ce poète accepte-t-il de se plier à la dictature de l'actualité?
Thomas Delogis a deux raisons de faire ça. D'abord, inventer de nouveaux langages poétiques. Et deuxièmement, aller chercher le public là où il se trouve. Le public est plus nombreux sur les réseaux sociaux que dans les librairies, car la poésie, on est d'accord, souffre de sa confidentialité. Donc, la diffuser sous forme vidéo, à la télé, sur Facebook, ça change beaucoup de choses, selon Thomas Delogis.
En la diffusant ailleurs, et donc en l'obligeant par là à parler d'autre chose, ce serait un moyen de ramener un plus large public vers elle et en fait de l'obliger elle-même à changer et à évoluer.
Et oui, c'est le principe même du « changer les mots pour changer le monde » et en tout cas la vision qu'on en a. Cerise sur le gâteau pour l'auteur de ces poèmes d'actu, l'exploit dont Thomas Delogis n'est pas peu fier, c'est que lui, qui n'a pas publié de livre, arrive en ce moment à vivre de sa poésie.
Dans les idées que j'avais de mettre de la poésie dans les médias, ça fait des années que je fais ça, que je pense à ça et tout, l'idée était double, amener la poésie au public et donc en vivre et trouver un moyen d'en vivre. Et moi, c'est une fierté, ça.
Comme le dit Thomas Delogis, le format court de la poésie convient en tout cas parfaitement à notre époque. Allez, avant de se quitter, un dernier extrait avec un poème écrit au moment des grèves pour le climat des jeunes et des lycéens.
Soudain en grève le vendredi, soudain en fronde, pour que retourne ronde la terre aujourd'hui aplatie par nos torgnoles, comme une orange basmati et à la pulpe nucléaire, que la jeunesse digère de moins en moins.
Ma vie connectée avec Christine Siméon et tout sur le poème d'actu en allant sur franceinter.fr. Quel temps demain ?
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, les trois quarts du pays vont conserver un temps estival. Seul le quart nord-ouest verra son ciel devenir plus terne au fil des heures, avec possiblement un peu de pluie sur le Finistère et tout logiquement moins de soleil, donc des températures en léger déclin par rapport à aujourd'hui, mais les valeurs vont rester confortables vers 27 degrés dans l'intérieur de la Bretagne, également vers les embouchures de l'Orne et de la Loire. Sur les autres régions, le soleil va rester rayonnant, un peu moins en matinée dans le golfe du Lion en raison des entrées maritimes. Et l'après-midi, des ondées sont probables sur les Pyrénées et le sud des Alpes, le tout dans des températures toujours plus élevées, de 24 à 27 degrés près de la Méditerranée, 29 à 34 ailleurs. Il fera 34 sur le centre et dans le sud-ouest, 33 sur la Bourgogne et le Limousin, 32 à Besançon, Tours, Paris et Strasbourg et 31 degrés à Metz, Lille, Reims et Cognac.